L'UCET tient son congrès depuis hier à Marais. Dans son discours d'ouverture, Emmanuel Tchibaou a indiqué que son parti était opposé à l'accord de Bougival et à celui de l'Élysée au Dinauf. La lèpre toujours présente en Calédonie. L'Ordre de Malte relance aujourd'hui sa traditionnelle quête. Les bénévoles de l'Ordre de Malte sont présents ce samedi à la sortie des grandes surfaces. Les portes ouvertes du centre équestre de L'Étrier à Nouméa. Le club invite le grand public à découvrir ses installations à Rivière-Salée. C'est entièrement gratuit jusqu'à 16h. Pas de surprise à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été rejetées. Le gouvernement Le Cornu est donc sauvé pour le moment grâce à la bienveillance du Parti socialiste. Un nouveau bilan de la répression en Iran dévoilé par une ONG. Plus de 5000 morts confirmés durant ces 3 semaines de révolte. Le sport, le football, Auxerre et le Paris Saint-Germain qui ont ouvert la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Duel des extrêmes remporté dans la difficulté par le PSG qui s'est imposé 1-0. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal d'actualité politique en Calédonie. À la une, les militants de l'UC qui sont au travail depuis hier. L'Union calédonienne qui réunit en effet son 56e congrès. C'est tout ce week-end à la tribune de Penelo, Michael Juneski.
Un congrès qui sera marqué par le renouvellement demain dimanche des instances du parti et de son président. Ce congrès va bien sûr faire une large part à la situation politique. Et dans son discours d'ouverture hier, le président de l'UC, Emmanuel Tchibaou, a donné le ton. Aller jusqu'au bout du travail de décolonisation pour accéder à la pleine souveraineté, c'est toujours l'objectif du combat politique du FLNKS, a rappelé Emmanuel Tchibaou au début de son intervention. La mobilisation ne doit pas faiblir et la principale cible du président de l'UC, c'est l'État, responsable selon lui de la situation actuelle.
L'heure est grave. La réunion convoquée par le président de la République du 16 janvier dernier à l'Élysée n'a fait que confirmer les craintes. L'État a décidé de passer en force à la voie du dialogue. Il préfère aujourd'hui celle d'une recolonisation de notre pays qui ne dit pas son nom. Car vous le savez, nous le savons tous, l'accord de Bougival n'a d'accord que le nom. Il n'en est rien d'autre en vérité qu'un projet pour réancrer de manière pérenne la Kanaky dans le giron de la République française.
L'heure est grave et l'heure est à la lutte. Et là encore, c'est l'État qui est visé.
L'heure est à la lutte. Lutter contre l'État pour lui rappeler sa responsabilité qu'il a dans le déroulement des événements de ces dernières années. Car ce n'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont pensé qu'on pouvait valider une consultation référendaire pour l'indépendance sans la participation du peuple colonisé. C'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont imaginé qu'on puisse dégeler le corps électoral sans qu'il y ait un accord négocié, consensuel avec la totalité des représentants politiques du peuple kanak. Ce n'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont fait le forcing pour entériner ce projet fou au Sénat et à l'Assemblée nationale.
L'heure est au combat, a poursuivi Emmanuel Tchibaou, au combat pour convaincre les parlementaires de ne pas voter les textes qui leur seront proposés, mais aussi au combat pour convaincre les autres partenaires politiques calédoniens favorables à l'accord Élysée-Oudinot auquel il s'est adressé.
Pensez-vous réellement construire un avenir durable et harmonieux dans ce pays contre l'opinion de la très grande majorité du peuple kanak? Pensez-vous réellement faire société en jetant les bases d'une partition de fait de notre pays?
Car selon Emmanuel Tchibaou, l'accord de l'Élysée-Oudinot franchit des lignes que son parti n'accepte pas.
Nous ne pouvons accepter une ouverture du corps électoral qui a pour seul but de continuer à noyer le vote du peuple kanak et à retarder le moment de sa pleine émancipation. Nous ne pouvons accepter une redistribution des sièges électifs entre les provinces qui viendrait rompre l'équilibre de la représentation politique entre le sud, le nord et les îles. Nous ne pouvons pas accepter l'annonce d'une partition de fait du pays par une hyperprovincialisation qui transférera aux provinces toute une série de compétences revenant jusqu'à présent au gouvernement et fera perdre à celui-ci son rôle fédérateur.
L'Union calédonienne, par la voix de son président sortant, confirme donc la position du FLNKS et rejette l'accord de Bougival complété par l'accord Élysée-Oudinot. Emmanuel Tchibaou a donc appelé les militants à poursuivre la mobilisation, mais il a aussi adressé un message à l'ensemble des indépendantistes, un message qu'il a aussi présenté comme un combat.
Nous avons un dernier combat à mener. Et c'est peut-être le plus difficile. C'est le combat contre nous-mêmes. Sommes-nous capables, à l'heure qu'il est, confrontés à l'adversité, à l'urgence, de nous rassembler, de mettre fin à nos divisions? Sommes-nous capables de reconnaître nos manquements, nos défaillances, nos fragilités? Sommes-nous capables de reconnaître la part qu'elles ont dans la situation que nous traversons aujourd'hui? Sommes-nous capables de nous mobiliser non pas seulement pour répéter encore et encore, de manière incantatoire, indépendance, indépendance, mais pour construire collectivement un véritable projet de société?
Ce discours a donc marqué l'ouverture du congrès de l'Union calédonienne qui se poursuit aujourd'hui. Le renouvellement des instances de l'UC et de son président se fera en fin de congrès demain dimanche.
Merci Mickaël. Actualité judiciaire, 2 ans de prison ferme pour l'un des incendiaires de l'école Jacques Minguet à Dimbéa. Il s'agit du seul prévenu majeur dans cette affaire. Rappelons que 3 individus avaient mis le feu à 2 salles de classe. C'était tôt lundi dernier. La police municipale avait rapidement interpellé les auteurs des faits. Les 2 autres individus impliqués sont des mineurs de 14 et 16 ans seulement. Ils sont placés sous contrôle judiciaire en attendant d'être présentés au tribunal pour enfants. Et puis, la préparation des élections municipales, à la fois avec une première candidature officielle. Stevens Kaouda annonce qu'il va conduire la liste d'ouverture Osons la foi. Elle sera présentée officiellement mardi prochain. Stevens Kaouda, originaire de la tribu de Watam, est déjà conseiller municipal Calédonie Ensemble, liste sur laquelle il a été élu en 2020.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 50% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils s'intéressent déjà à la donne politique de leur commune pour les élections municipales de mars prochain. Ils sont aussi donc 50% à dire que ce n'est pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Le 25 janvier, journée mondiale de lutte contre la lèpre sur le territoire, l'Ordre de Malte organise tout au long du week-end sa quête annuelle, Mickaël.
La lèpre est toujours présente en Calédonie, comme on le répète chaque année, mais l'Ordre de Malte s'inquiète surtout de l'évolution de la maladie en période de pénurie de soignants sur une grande partie du territoire. Les cas de lèpre ne sont plus forcément détectés, alors qu'il existe des moyens de lutter contre la maladie. Des bénévoles sont impliqués dans cette quête ce week-end, à l'image de Noah, 17 ans. Qui n'hésitent pas à aller à la rencontre du public devant les supermarchés.
Bah déjà, on leur demande s'ils veulent participer. Donc soit ils nous demandent qu'est-ce que c'est, ou soit ils donnent tout simplement. En vrai, il y a beaucoup de gens qui donnent. Même 5 francs, c'est un geste, ça fait déjà plaisir. Ça fait plaisir de vouloir aider. Et puis même depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire des associations, tout ça. Donc ça me fait plaisir de participer pour une cause.
Et pour Amy, 17 ans également, il était important de se mobiliser pour cette cause.
Donc on avait une amie qui le fait depuis très longtemps. Et finalement, on l'a toute rejoint en groupe de 6. Et donc, on l'aide pendant toute la journée, toute la matinée. Bah, c'est beau de voir qu'en Calédonie, même avec les problèmes qu'il y a en ce moment, les gens essayent de donner. Et même si c'est une petite pièce de 100 francs, on voit qu'il y a quand même encore de l'entraide. Et même, ça fait du baume au cœur de voir un peu tous les gens être comme ça. Donc franchement, c'est agréable. Ça fait plaisir de pouvoir aider à notre manière et à l'échelle, à la petite échelle.
L'association Ordre de Malte qui mène donc cette quête aujourd'hui devant de nombreuses zones commerciales du territoire, des grandes surfaces aussi, en brousse comme à Conné. Les bénévoles seront de nouveau mobilisés demain à la sortie des messes le matin.
Les portes ouvertes du centre équestre de Létrie à Nouméa. Le club invite le grand public à découvrir ses installations ce samedi à Rivière-Salée.
C'est l'occasion également pour les plus jeunes, autant que les adultes, de profiter de balades à cheval ou à poney. De nombreuses familles ont fait le déplacement à la première heure ce matin pour un premier contact avec des poneys ou des chevaux, voire même une première balade encadrée sous les yeux des parents.
On s'est baladé et moi, cheval, quand j'étais dessus, il n'arrêtait pas de manger de l'herbe, il s'arrêtait toutes les 2 secondes.
On est venu parce que la grande fait du bénévolat ce matin pour aider à l'étrier pour faire les balades, et puis la petite voulait faire un tour pour imiter un peu la grande, quoi.
C'est un peu impressionnant de la voir sur une grosse bête comme ça, sachant que moi j'aurais peur, mais on est fiers, elle a l'air heureuse, donc on invite tous les gens à venir passer une belle journée.
Alors c'est comment de faire du poney? Tu as eu peur ou pas du tout?
Non.
C'est la première fois que tu en fais?
Oui, première fois. Un peu content.
Ils sont beaux les chevaux aujourd'hui. Hein.
Profiter de quoi, porte ouverte, venir promener, faire profiter les enfants.
Vous-même, vous êtes originaire de où ça?
Je suis de la Brousse, Canal.
Canala, il y a toujours des chevaux, mais ici à Nouméa, c'est rare. Vous êtes dit, faut la faire monter quand même.
Oui, et puis leur faire plaisir, quoi.
Moi, j'avais un peu peur parce que des fois, il se couvait parce qu'il avait trop de mouches dessus.
Mais ça s'est bien passé?
Oui.
Les membres du club n'ont pas hésité à donner de leur temps pour aider les novices à mettre le pied à l'étrier, à l'image de Manon, passionnée d'équitation.
C'est la relation qu'on a avec les chevaux, puisque bon, bah, au début, c'est pas quelque chose de fort, mais après, bah, quand on rentre au paddock, ils nous suivent, c'est bien. Ça crée des bonnes relations avec les animaux.
Ça fait combien d'années que vous pratiquez?
Oula, ça fait depuis 2022, 4 ans à peu près.
Arrêter d'être au contact des chevaux, des poneys, c'est quelque chose que vous n'imaginez même plus?
Oui, j'adore trop, j'aime trop, je veux pas partir.
Les portes ouvertes du centre équestre de L'Étrier à Nouméa, c'est entièrement gratuit, avec aussi des animations et de la restauration à retrouver sur place jusqu'à 16h.
Merci Mickaël, il est midi et 11 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Incendie, inondation, cyclone. Les risques naturels sont nombreux et bien réels. Êtes-vous sûr d'être bien assuré? En cas de doute, prenez contact dès maintenant avec votre assureur. Parce qu'être assuré, c'est être protégé. Ceci est un message du COSODA, Comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Midi 11, la suite de votre journal avec Lionel Sabour.
Et après deux semaines passées derrière les barreaux, le propriétaire du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse a été remis en liberté. Sa détention provisoire a été levée après le versement d'une caution de 200 000 francs suisses. Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Jacques Moretti a quitté la prison de Sion tout à l'heure entre 19 et 20 heures après 15 jours passés en cellule. Une levée de la détention provisoire permise effectivement par le paiement d'une caution de 200 000 francs suisses, à peu près autant en euros, réglée semble-t-il par un ami. Alors certes, Jacques Moretti est placé sous contrôle judiciaire et devra pointer tous les jours au commissariat de police. Il ne dispose plus non plus de ses papiers d'identité. Ses biens et ses avoirs ont été gelés. Mais cette remise en liberté ulcère les familles de victimes, à l'image de Laetitia, maman d'Arthur, 16 ans, qui a péri dans les flammes.
Nous sommes consternés. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas sur une condamnation. Par contre, il y a des risques. Premièrement, il y a le risque de fuite. Pour moi, le risque de fuite est clairement là. Et il y a le risque de collusion, en fait. Comment nous garantir que le couple Moretti ne va pas téléphoner à d'autres personnes, ne va pas se mettre d'accord avec d'autres personnes? Comment nous garantir qu'ils ne vont pas s'accorder ensemble? Il a passé moins de jours qu'il y a eu de victimes. Il y a eu 40 morts, il y a passé moins de 40 jours.
Des familles très amères donc, qui se posent aussi beaucoup de questions sur l'avancée de l'enquête, alors que la justice suisse, qui cette semaine a de nouveau entendu Jessica et Jacques Moretti pendant près de 10 heures chacun, rappelle que tous les deux sont présumés innocents jusqu'à la tenue de leur procès.
Et Jean-Luc Bougeon, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Suisse, en métropole. L'horreur absolue à Nice, une femme âgée de 90 ans, violée chez elle par l'un de ses voisins, l'agresseur, un Tunisien de 29 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, s'est rendu au domicile de sa victime. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Derrière la porte, un homme qui pousse violemment la femme âgée de 90 ans dans sa chambre sur son lit, puis la viole avant de se servir une bière dans la cuisine comme si de rien n'était. L'agresseur quitte ensuite l'appartement. La victime, choquée, contacte sa fille qui prévient les policiers. Le suspect est rapidement retrouvé dans le même immeuble, comme l'explique Jean-Luc Bragato, policier du syndicat Alliance.
Les collègues, quand ils sont arrivés, sont montés directement au quatrième étage. Ils ont repéré un appartement. Ils ont cru que c'était un squat, en fait. Et quand ils sont rentrés, il y avait six hommes à l'intérieur. Parmi les hommes, il y a la mamie qui a identifié formellement l'auteur du viol. Comme il parlait en arabe, un des hommes qui était à l'appartement qui a dit aux collègues, il vient de me dire qu'il était allé voir la mamie du rez-de-chaussée.
L'agresseur présumé est interpellé. Il s'agit d'un homme en situation irrégulière.
C'est un individu qui est tunisien, qui a une fiche Schengen. C'est-à-dire qu'il a ou une fiche de reconduite frontière, une OQTF, ou alors c'est un individu qui est peut-être recherché sur un autre pays en Europe.
Trois autres personnes dans l'appartement, tous sous OQTF, sont aussi interpellées. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, sur son réseau social X, dénonce une horreur absolue et demande à la justice d'être impitoyable à l'encontre de l'agresseur.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'actualité politique à présent en métropole, et pas de surprise à l'Assemblée nationale, deux motions de censure ont été rejetées hier soir pour nous. Motion de censure déposée par LFI et le Rassemblement national après l'utilisation violation de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la partie recette du budget. C'était en début de semaine. Le gouvernement, le cornu, est donc sauvé pour le moment, grâce notamment à la bienveillance du Parti Socialiste. Le Premier ministre qui peut enfin penser à d'autres chantiers. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
Sans crier victoire trop tôt, c'est bien le soulagement qui domine à Matignon. Si Sébastien Lecornu reconnaît la légitimité des motions de censure, le Premier ministre défend aussi son budget.
Faire 3 jours de presse pour expliquer que les impôts augmentent alors qu'ils n'augmentent pas, le pays a déjà suffisamment de problèmes, on n'est peut-être pas obligé en plus de lui expliquer des problèmes qui n'existent pas.
Et dénonce à demi-mot la démarche politicienne des oppositions.
On voit bien que depuis le début du mois de janvier, il y a une vie politique, peut-être même un peu politicienne, qui a redémarré de plus belle, là où il y avait plus de gravité tout au long de l'automne. C'est certain que je ne suis pas du tout dupe que ce mois de janvier est un peu plus politique et que la vie des bêtes reprend. Bon.
Le gouvernement entrevoit malgré tout l'éclaircie et planche déjà sur le calendrier parlementaire des prochains mois. L'objectif, sortir du tunnel du budget et faire adopter des textes utiles pour le pays, même si la pression reste importante, puisque l'Assemblée se prononcera sur 2 nouvelles motions de censure mardi prochain.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Le Grinch, ce pétrolier intercepté par la Marine nationale en mer Méditerranée hier, va être convoyé vers le port de Marseille-Fos. Ce navire sous sanction internationale est soupçonné d'appartenir à la fameuse flotte fantôme russe, outil indispensable à Moscou pour financer la guerre en Ukraine. À propos de cette guerre en Ukraine qui dure depuis près de 4 ans maintenant, des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours à Abu Dhabi. La première discussion directe entre représentants russes, ukrainiens mais aussi américains. Les échanges ont duré 4 heures. Avant cette réunion, le porte-parole du Kremlin présentait le retrait total des forces ukrainiennes de la région du Donbass comme une condition préalable à tout arrêt des combats. Un nouveau bilan de la répression en Iran dévoilé par une ONG. Plus de 5000 morts confirmés durant ces 3 semaines de révolte selon Human Rights Activist News Agency. Cette organisation basée aux États-Unis enquête également sur plus de 9700 autres décès. Les États-Unis qui remettent la pression sur le régime des mollahs. Une semaine après avoir menacé de frapper très fort pour défendre les manifestants, Donald Trump annonce l'envoi d'une armada vers le golfe Persique. Jacques Serret pour Europe 1.
Donald Trump met la pression sur le régime iranien. Depuis son avion de retour de Davos, le président américain a répondu aux questions au sujet du porte-avions USS Abraham Lincoln.
Nous avons une force importante qui se dirige vers l'Iran. Je préférerais qu'il ne se passe rien, mais nous les surveillons de très près.
Un porte-avions ne navigue jamais seul. Donald Trump parle d'armada. Le décryptage du général Christophe Gomard, eurodéputé LR et ancien directeur du renseignement militaire.
Son escorte, c'est au moins 3 gros destroyers ou frégates, sans doute 1 ou 2 sous-marins nucléaires d'attaque qu'on ne voit pas qui sont sous l'eau, et puis qui vont rejoindre la 5e flotte américaine. Donc oui, c'est beaucoup de bateaux avec des capacités mer-sol assez importantes ou mer-air très importantes, capable en effet de détruire beaucoup de choses.
Un déploiement qui relève avant tout du rapport de force, une démonstration de puissance typique de la méthode Trump. À Washington, plusieurs scénarios militaires existent sur le papier, mais aucune décision d'attaque n'est actée à ce stade.
Jacques Sera du service international d'Europe 1. En bref, l'Irak appelle les pays européens à reprendre leurs ressortissants partis faire le djihad au sein du groupe État islamique, des prisonniers qui doivent être transférés par milliers dans les prisons irakiennes après l'offensive dans le nord-est de la Syrie de l'armée de Damas pour chasser leurs geôliers kurdes. L'Union européenne se dit aujourd'hui extrêmement préoccupée par de possibles évasions de combattants dans ce contexte sensible. Et puis l'Afghanistan est-il devenu le nouvel Eldorado des djihadistes? La question se pose après un coup de filet réalisé par la DGSI. C'était à Toulouse il y a quelques heures. 3 hommes sont en garde à vue suspectés d'avoir voulu rejoindre un groupe lié aux talibans, sans doute attiré par la propagande en ligne orchestrée par Kaboul. Il est midi et pratiquement 20 minutes. Une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
Vous rêvez d'espace de rangement supplémentaire? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
Il est midi 20, la suite de votre journal, l'actualité sportive avec Lionel Sabou.
Et nous allons parler football et le Paris Saint-Germain qui reprend provisoirement, on a bien dit, la tête du championnat de France de Ligue 1, Michael Juneski.
Et oui, le PSG qui retrouve son trône provisoirement, vous l'avez dit, car en attendant le match de Lens contre l'OM demain. Paris qui a donc repris les commandes de la Ligue 1 grâce à cette victoire sur la plus petite des marques contre l'AJ Auxerre, pourtant 17e du classement, 1-0. L'unique but du match signé Barcola à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ça n'a pas été facile, mais l'important était d'envoyer un message aux Lensois à la veille de leur rencontre sur le terrain de l'Olympique de Marseille. Luis Enrique, le coach de Paris.
C'était le moment de mettre pression à Lens et je pense que le plus important, c'est de gagner les 3 points et on a fait ça et je suis content de ça, mais il faut améliorer pour gagner Newcastle.
Lens qui sera donc demain en déplacement sur la pelouse de Marseille à partir de 7h, à suivre également pour les autres rencontres de cette 19e journée ce dimanche le derby breton Rennes-Lorient à partir de 3h ou encore le déplacement de Monaco sur la pelouse du Havre à 5h, heure de Nouméa.
Parlons sport d'hiver à présent et les Françaises qui s'illustrent à nouveau à l'occasion de l'étape de la Coupe du Monde de biathlon à Nové Mesto, c'est en République Tchèque.
Un nouveau doublé sur l'individuel court 2 jours après les messieurs, cette fois Justine Brezaz-Boucher s'est imposée sur cette épreuve pour 1 seconde d'avance sur sa compatriote Lou Jean Monod. Justine Brezaz-Boucher qui conforte son avance en tête du classement général de la Coupe du Monde chez les dames pour se rapprocher du gros globe de la discipline et surtout à moins d'un mois du début des JO des sports d'hiver qui seront en Italie.
Les sports mécaniques à présent avec le rallye de Monte Carlo.
Et après les 9 premières spéciales de disputées ce week-end, Oliver Solberg sur Toyota est leader. Il possède plus d'une minute d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans. Sébastien Ogier, également sur Toyota, le champion du monde en titre, est actuellement 3e de cette épreuve. Encore 8 spéciales à courir tout au long du week-end.
Le sport dans le Pacifique à présent avec du tennis, c'est le 3e tour de l'Open d'Australie.
Et on rappelle qu'il n'y a plus de Français en lice dans les tableaux en simple depuis hier. Corentin Moutet qui n'a sans surprise pas fait le poids contre le numéro 1 mondial hier soir sur la Rod Laver Arena, défaite face à l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-4, 6-1. Il n'y avait tout simplement rien à faire selon Corentin Moutet.
C'était dur, il a été meilleur que moi. Même si moi je suis arrivé sur le match avec plein de bonnes intentions, en essayant de me concentrer sur moi, d'être agressif, de jouer le match contre moi plutôt que contre l'adversaire. C'est une première pour moi sur le central en Australie, première contre Carlos. Je suis allé avec mes armes, je suis allé avec le cœur et puis j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et c'était pas suffisant.
Corentin Moutet qui était le dernier tricolore en lice, en simple, sur les 22 engagés en début de tournoi, a signalé encore que le monégasque Valentin Vacherot est toujours de la partie. Il sera opposé cet après-midi à l'américain Ben Shelton. Du côté des têtes de série, Alexander Zverev est passé face au britannique Cameron Norrie en 4-7. Aujourd'hui, on retrouvera encore cet après-midi l'italien Yannick Sinner contre l'américain Eliot Spitzeri. Ce soir, Novak Djokovic opposé au néerlandais Van der Zandschulp. Chez les dames, Coco Gauff, l'américaine tête de série numéro 3, triomphe fait de sa compatriote Hailey Baptiste en 3-7. Arena Sabalenka l'a aussi emporté contre l'Autrichienne Anastasia Potapova.
On reste en Australie avec du cyclisme. Cette fois-ci, la suite du Tour Down Under.
Hier, sur la 3e étape, la victoire est revenue à l'Australien Sam Welford. Il a devancé au sprint le Danois Tobias Lund Andresen et le Néo-Zélandais Lewis Boser. Au classement général, c'est toujours l'Australien Jay Vine qui est en tête. Il devance l'Équatorien Jonathan Narvaez et le Suisse Mauro Schmidt. La 4e étape aurait pu être décisive aujourd'hui. Elle devait voir le peloton se lancer sur 3 ascensions du fameux Willunga Hill, le traditionnel juge de paix du Tour Down Under. Mais le parcours a été modifié cet après-midi en raison des fortes chaleurs attendues dans cette région sud de l'île continent.
Et puis un dernier mot de sport dans la région avec du football et l'équipe de Tahiti United avec ses 3 Calédoniens qui jouera aujourd'hui une nouvelle rencontre de l'OFC Pro League.
Oui, Germain. Germain et Wegené, Potin Poma et Joseph Attaré étaient tous les trois titulaires pour défier les Australiens du South Melbourne FC le week-end dernier. La formation basée en Polynésie s'est inclinée 2-1. Le deuxième match, on le rappelle, a été annulé cette semaine pour cause de mauvaises conditions météo sur Auckland. Aujourd'hui, Tahiti United affrontera les Solomon Kings. Un coup d'envoi d'ici quelques minutes, 12:35 exactement. Les Calédoniens seront à nouveau titulaires dans les rangs de Tahiti United.
Il est midi et pratiquement 26 minutes. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Journal qui sera disponible d'ici quelques instants en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Je vous souhaite une très belle après-midi sur RRB. On se retrouve à 13h pour d'autres informations.
Merci beaucoup, Lionel.